Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdi Wa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi sur le podcast de Erdi Wa sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Laura Grivet. Bonjour.
Bonjour.
Laura Grivet, vous êtes ici pour nous parler des Amanins et de quelques événements à venir. Avant tout, vous êtes aussi en charge de la relation partenariale avec d'autres structures où on présentera le panel à la suite et aussi des relations presse. Et donc, vous êtes ici en premier lieu pour nous parler probablement de la fête des Amanins qui aura lieu le 12 juin de cette année à partir de 11h. Il y aura une présentation de Pierre Rabhi.
Oui, tout à fait. Il viendra introduire le début de la fête, comme il le fait souvent depuis des années maintenant, étant un des trois fondateurs à l'origine du projet des Amanins. C'est pour nous toujours un plaisir de pouvoir lui donner la parole lors de ce genre d'événement.
À la suite, il y a le repas hein, avec les productions locales qu'on peut trouver chez vous. Et ça sera aussi un moment pour en parler. Et puis, la reprise en début d'après-midi à partir de 14h d'une succession de conférences. On les citera par la suite. Et puis, une clôture en fin de journée avec deux concerts qui commenceront à partir de 18h, je crois.
18h30,
oui. 18h30. Les Amanins, on peut d'abord expliquer aussi aux auditeurs ce que c'est. Comment se présentent les Amanins ?
Alors, les Amanins, c'est un projet qui a maintenant une quinzaine d'années, qui a été initié par Michel Valentin lors de sa rencontre avec Pierre Rabhi. Michel Valentin, qui était un chef d'entreprise qui avait très très bien réussi et qui avait gagné beaucoup d'argent. Et à un moment donné dans sa vie, il s'est posé la question du sens, en fait, que cela représentait d'avoir autant d'argent et du but, en fait, que ça représentait. Et du coup, fils de commerçant et de paysan, il avait quand même cette notion très chère à lui qui était la terre nourricière. Et c'est une amie en commun à Pierre et à Michel qui les a fait se rencontrer. Et étant eux complètement issus d'un monde différent, Pierre étant un philosophe agriculteur par choix, et Michel Valentin qui venait vraiment d'une filière entreprise classique, bah, se sont quand même rencontrés autour justement de cette question de leur amour pour la terre et d'une double question qui est aujourd'hui vraiment le socle fondamental, le fil d'Ariane en fait sur lequel repose le projet des Amanins, qui est: quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à notre planète ? Voilà, donc il s'agit aujourd'hui d'un centre d'accueil, une ferme en agroécologie et maraîchage et élevage, ainsi qu'une école primaire du CP au CM2 qui accueille 30 à 35 élèves par an. Voilà.
Alors, les Amanins existent depuis globalement une quinzaine d'années. Ouais. Depuis, il y a une certaine renommée, voire même internationale.
Oui, on a pu bénéficier, c'est vrai, de la renommée de Pierre, avec tous les projets et les livres qu'il a pu écrire. C'est vrai qu'en étant un des trois fondateurs, forcément, ça a permis aux Amanins de vraiment pouvoir décoller à l'époque. Et encore aujourd'hui, de pouvoir faire parler d'eux. On a aussi des structures partenaires qui tournent autour de Pierre Rabhi, hein, comme le mouvement Colibri, qui est un partenaire historique aussi des Amanins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait vraiment pouvoir aussi montrer que le projet des Amanins, c'est un projet en lui-même, mis à part juste les fondateurs qui le représentent, et qu'il a su vraiment tirer son épingle du jeu et rester debout depuis une quinzaine d'années, quand on voit que c'est quand même un des projets pilotes et pionniers du monde des oasis et de la lignée de ces structures-là qui ont émergé depuis quelques années. Voilà.
Vous parlez de divers projets auxquels s'est rattaché Pierre Rabhi. Est-ce que vous pouvez nous en citer d'autres au-delà des Amanins ?
Oui, bien sûr. Il y a du coup le mouvement Colibri, comme je vous le disais. Il y a Terre et Humanisme. Je crois qu'il y a Femmes Semencières, mais je... il faudrait vérifier. Voilà, donc certaines vraiment grandes structures qui rassemblent, qui sont issues véritablement d'une pensée de la philosophie de Pierre Rabhi, de cette volonté de mettre en marche des mouvements citoyens, de transition et surtout beaucoup plus de respect envers notre environnement.
La philosophie de Pierre Rabhi, on peut résumer, même si c'est impossible?
Alors moi, je n'aurais pas la prétention de pouvoir résumer la philosophie de Pierre Rabhi en entier. Par contre, l'éthique sur laquelle repose le projet des Amanins, c'est celle de la sobriété heureuse, qui est vraiment une des grandes lignes de pensée de Pierre Rabhi. Cette sobriété heureuse qui repose sur le choix de satisfaire les besoins fondamentaux, et d'ensuite être sobre dans un petit peu dans nos désirs d'être humains, en quête de toujours plus de confort, de toujours plus d'innovation et de nouveauté, qui est vraiment qui a un impact désastreux sur l'environnement, sur les matières premières et aussi toutes les pollutions en fait qui résultent de la fabrication de tous ces objets, de toutes ces choses. Du coup, on part du principe que la sobriété heureuse, c'est se satisfaire de ce que la Terre a nous donné, de comment on peut le transformer pour répondre à nos besoins fondamentaux, et privilégier aussi le lien à l'humain, plus que le lien à l'argent ou à la quête du désir par-dessus tout.
Il y a en quelque sorte une dualité entre culture et nature.
Alors oui, ben ça... C'est Marine Simon aussi qui est administratrice de l'association des Amanins, qui a sorti un livre récemment qui s'appelle « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer », qui parle justement de cette notion de culture. Et Marine, qui est une des intervenantes l'après-midi dans les conférences pour la fête du 12 juin prochain, elle parle de cette différence de culture, la culture du vivant qui est vraiment circulaire, qui est dans la coopération, dans la fluidité, dans... Voilà, toute cette rondeur, et à côté de ça, une culture humaine occidentale qui est vraiment linéaire, sur la compétition, sur quelque chose de pas du tout avec cette rondeur justement, mais d'assez cassant. Et elle met en exergue comme ça ces deux cultures en montrant que l'être humain en fait fait partie du vivant, et que la culture en fait choisie par le vivant depuis des millions d'années, c'est celle de la circularité, de la cyclicité et de la coopération. Et du coup, en fait, il faudrait vraiment que l'être humain retrouve sa juste place dans tout ça.
Les Amanins, donc, vous disiez, est une ferme, en quelque sorte. Combien d'hectares dispose cette ferme pour cultiver?
Alors, les Amanins, c'est 55 hectares, mais partagés entre bois, clairières, forêts, parcelles maraîchères. Les parcelles maraîchères aujourd'hui, c'est 2 hectares en agroécologie. Et ensuite, on a une vingtaine d'hectares en grande culture qui nous permettent de cultiver notre blé, la luzerne, pois chiche. Et tout cela permet aux Amanins aujourd'hui d'atteindre une autonomie alimentaire de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que par jour, matin, midi et soir, nous sommes en capacité, avec la production directe directement issus de nos jardins et de notre site, de pouvoir nourrir 80 personnes. Voilà.
Dont les enfants de l'école primaire, hein, au nombre de 35. Donc, beaucoup de monde sur cette ferme a œuvré. J'imagine que tout le monde n'est pas présent forcément en permanence. Il y a des roulements de personnel, j'imagine.
Oui, tout à fait. On est sur l'ensemble des structures, parce que les Amanins sont composés d'une association qui porte l'école et d'une SCOP qui porte une société coopérative qui porte justement tout ce qui est les activités agricoles de la ferme et les activités du centre d'accueil et de formation. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'équipe salariale des Amanins repose sur une vingtaine de personnes. Alors pas tout à temps plein, qui tourne un peu, mais c'est quand même une vingtaine de personnes quotidiennement qui sont le plus souvent ici. Et on a la chance de pouvoir être épaulés au quotidien par deux services civiques, voire même plus, parfois trois, et deux woofers par mois environ qui viennent aux Amanins pour découvrir le projet agroécologique et donner un coup de main à nos agriculteurs.
L'intérêt aussi, ça serait de savoir quel type de processus peut-on trouver dans cette ferme des Amanins, que ce soit à partir du semis à la récolte et la transformation. Est-ce que vous avez aussi des animaux, par exemple ?
Tout à fait. Alors, les Amanins, c'est une ferme et une production agricole, mais c'est quelque chose de très peu courant. On est une ferme en agroécologie, mais qui mixe maraîchage et élevage. Et c'est vrai que ça, c'est pas très courant aujourd'hui. Donc nous, on a fait le parti, justement pour atteindre ces 80% d'autonomie alimentaire, d'avoir un cheptel d'une quarantaine de brebis lacones, aujourd'hui, qui sont gérées exclusivement par notre éleveuse Christelle. Et à partir de ces brebis, ça nous permet aussi de transformer le lait pour faire du fromage, des yaourts, du lait pour les petits déjeuners. Et ça nous permet vraiment de pouvoir abonder nos menus. On a aussi du coup quelques vaches qui nous permettent d'abonder aussi avec quelques fromages de vaches. Nous avons 4 à 5 cochons par an, pour permettre d'évacuer en fait les déchets, parce qu'on est vraiment sur la notion d'économie de la circularité aux Amanins, et une quarantaine de poules. Voilà.
Donc vous transformez également donc votre production. Le public, quel est l'accès du public dans cette ferme, mis à part cette période de confinement et de contraintes sanitaires? Mais est-ce qu'il y a des ouvertures ou des visites organisées à l'adresse du public?
Tout à fait. On organise normalement une fois par mois une visite des Amanins ouverte au public. On est vraiment en train d'essayer de pouvoir développer cette accessibilité un peu plus informelle pour que le public en fait puisse venir découvrir les Amanins, le projet. On en a parlé, cette notoriété plutôt nationale, mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir aussi se faire plus connaître dans notre territoire, se réancrer territorialement, pouvoir vraiment être acteur de notre territoire et aider notre territoire à pouvoir avancer, innover et coopérer. Parce qu'on pense vraiment qu'on est un acteur en fait de cette lignée-là. Et du coup, donc, on a des visites et sinon, on s'adresse plutôt à des publics qui viennent lors de stages, de classes découvertes, de formations, de séminaires d'entreprise, de réunions d'équipe. Voilà.
Je regardais sur votre site des Amanins l'installation des parcs maraîchers. Ils sont situés sur des terrassements.
Alors pour certains, après, on est surtout sur des parcelles qui sont comment dire. Je dirais pas que c'est forcément des terrassements. Je dirais que c'est des parcelles maraîchères, mais qui ont été pensées aussi pour favoriser le maintien de la biodiversité, mais aussi créer de nouveaux espaces de biodiversité. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est dans le giron de l'agroécologie, avec des haies, la plantation de fruitiers. On est vraiment dans cet esprit-là. On a un très beau partenariat avec une association qui s'appelle L'Abeille qui relie, qui fait des formations autour du monde de l'abeille, de la connaissance de l'abeille, qui ont installé des ruches aux Amanins qui permettent un apport en pollinisation, un apport en insectes qui est vraiment très riche. Voilà, et on est aussi un site exemplaire pour le passage d'oiseaux migrateurs, mais aussi pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui vient régulièrement faire des observations aux Amanins. Et poser des nichoirs aussi, donc on est une belle réserve de biodiversité préservée.
En parallèle de vos activités de ferme, vous proposez également des ateliers pédagogiques et aussi des formations à l'adresse de quel public principalement ?
Alors pour la pédagogie, c'est vrai qu'Isabelle Peloux propose, Isabelle Peloux du coup qui est une des trois fondatrices du projet des Amanins et qui est à l'origine de la création de l'école du Colibri, qui est une école aujourd'hui qui est privée, sous contrat avec l'État. Donc on a obtenu cette reconnaissance en 2014, il me semble. Ou 2016, je ne sais plus, ça faudra voir. Et du coup, en fait, la pédagogie de la coopération, elle est premièrement exercée vis-à-vis des élèves de l'école. 3 heures par semaine sont dédiées dans le programme à l'apprentissage de la coopération. Ceci se fait sous la forme de 3 ateliers. Un atelier philosophique où les enfants vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir vraiment essayer de résoudre leurs tensions, leurs conflits, s'organiser. On va avoir un temps d'apprentissage à la paix qui va varier sur l'apprentissage pour être en paix avec soi-même, pour être en paix avec les autres, mais aussi pour être en paix avec son environnement, donc avec la nature. Donc il y a plein de petits ateliers qui sont proposés dans ce cadre-là. Et un dernier temps autour du bien vivre ensemble qui permet aux enfants aussi d'aller reconnaître et repérer quelles sont les différentes intelligences aussi des uns des autres pour pouvoir s'adapter aussi à la personne en face d'eux, pouvoir la comprendre, pouvoir essayer de faire avec elle, de coopérer, de collaborer. Et donc tout cela permet au quotidien aux enfants d'être unis, d'être plus efficaces aussi dans l'apprentissage des matières telles que les français, les maths et toutes les autres matières telles qu'une école primaire les propose à l'apprentissage. Et ensuite cette pédagogie, elle est aussi proposée sous la forme d'une formation à l'adresse plutôt de professionnels dans le milieu de l'éducation, ou étant en lien avec des enfants, des adultes, mais dans le milieu de l'apprentissage. Et la petite nouveauté de cette année qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre, c'est d'adapter cette formation pour proposer la pédagogie de la coopération au sein du monde du travail, du monde professionnel. Voilà, et c'est un beau challenge.
Et donc le 12 juin, à partir de 11h, Pierre Rabhi inaugurera cette journée. Comment se déroulera cette ouverture ?
Alors, juste pour revenir, la fête, elle est tous les 2 ans. Plutôt que tous les ans, on a décidé de fonctionner comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important à organiser. Et du coup, comment ça se passe au début avec l'arrivée de Pierre ? Pierre, il faut savoir que c'est un monsieur qui a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et du coup, les gens viennent souvent pour l'écouter. Voilà, donc là, c'est vraiment une conférence où Pierre parlera de son parcours, de sa philosophie, des résultats ou non qui sont là aujourd'hui, voilà, de ses constats. Sachant que Pierre a fêté ses 80 ans il y a peu de temps. Voilà, ça commence à être quand même un papy, un sage, et du coup, qui a encore beaucoup de choses à nous partager, avec, on l'espère, ensuite, un temps d'échange avec le public qui puisse poser leurs questions. Et ensuite, on pourra justement partir sur le temps d'un repas partagé festif, je l'espère, et à 14h, du coup, revenir sur les conférences.
Je ne sais pas pour vous, les propos de Pierre Rabhi, ce que vous en prenez, le public qui vient nombreux pour l'écouter aussi, ces paroles, est-ce qu'elles vont au-delà de ce que l'on peut écouter habituellement, par exemple dans les médias est-ce que, quel est cet intérêt de son discours qu'est-ce que le public peut y trouver ?
Ben je pense ce qui est intéressant en fait dans le discours de Pierre, c'est que en fait c'est quelqu'un qui reste très humble, qui s'est pas monté le bourrichon parce que justement il avait commencé à avoir une notoriété et était écouté pour ses idées. Je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas le considérer comme un gourou. C'est vraiment un philosophe et quelqu'un qui a une pensée. Certes très qui donne espoir en fait pour demain et qui propose des voies de transition. Après c'est à chacun de faire aussi son boulot pour prendre en fait ce qu'il y a à prendre dans le discours. Voilà, rien n'est acquis, rien n'est une vérité en soi dans le discours de Pierre Rabhi. Donc voilà, nous on a vraiment à cœur de pouvoir voilà aussi mettre de côté toute cette tout ce côté un petit peu people, un petit peu crainte que pourraient avoir les gens de Pierre Rabhi face à ce côté un peu gourou. Non, nous, en fait, ce qu'on retient de sa philosophie, c'est juste un homme qui, par l'action, parce que c'est vraiment par ses actions, en fait, qu'il a prouvé que des choses étaient possibles de faire. Et du coup, ce n'est pas qu'un homme de mots, c'est aussi un homme de gestes. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens peuvent l'écouter et avoir une certaine forme de confiance ou d'envie à pouvoir suivre la piste de l'agroécologie, en tout cas, ou de la sobriété heureuse, comme ça a été le choix des Amanins.
À la suite de cette ouverture, donc le repas, certainement, avec une production, on ne connaît certainement pas le menu à un mois près, c'est sûr. Et ensuite, à 14h, une succession de conférences, à commencer par Cyril Dion. Alors, peut-on le présenter ?
Oui, Cyril Dion, beaucoup le connaissent parce qu'il a réalisé le film Demain, Après-demain. Il était aussi à l'origine de la création du mouvement Colibri, le mouvement citoyen dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà Cyril Dion qui interviendra. Juste pour rappeler le thème de cette année de la fête, c'est « Réenchantons le monde de demain ». Il y a 2 ans, le thème de la fête, c'était... À chaque fois, je... C'était autour de l'effondrement. Du coup, c'est vrai que ça pouvait sembler comme étant un thème peu festif, mais au final, ça avait très bien fonctionné, notamment aussi avec la présence de Pablo Servigne qui était ici. Et cette année, après l'effondrement, on voulait la suite logique. C'était comment est-ce qu'on se relève et comment est-ce qu'on réenchante le monde de demain ? Et on a pensé à Cyril Dion, du coup, qui avait toute sa cohérence, en fait, dans sa présence à la fête du 12 juin. Parce que, justement, demain, après-demain, c'est message d'espoir. Et puis Cyril, c'est aussi quelqu'un qui est un amoureux de la poésie. Donc il peut aussi nous amener une vision un peu plus poétique aussi du monde de demain, tout en amenant ce côté militantisme citoyen aussi qui nous est cher à tous.
À la suite, Isabelle Peloux, déjà mentionnée, elle est effectivement active au sein des Amanins. Et quel a été son parcours ? On peut peut-être en parler rapidement aussi.
Alors Isabelle, elle est actuellement directrice de l'école du Colibri, également un professeur des écoles, donc elle accompagne les élèves de CP en CM2 sur les maths, le français, professeur des écoles. Elle a eu un parcours qui est très riche, notamment justement sur tout ce qui était l'intelligence émotionnelle et cette pédagogie de la coopération qu'elle a vraiment mis en œuvre au sein de l'école du Colibri. Et pour Isabelle Peloux, justement, en fait, réenchanter le monde de demain n'aurait aucun sens si cela se faisait sans la présence des enfants, des générations à venir, des générations présentes déjà aujourd'hui. Du coup, il serait insensé de croire qu'on puisse réenchanter le monde sans cette vision enfantine, sans cette propension à l'émerveillement et qu'ont les enfants et dont il nous faut nous rapprocher, se rapprocher de l'enfant aussi qui est en nous.
Réenchantons le monde de demain. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce terme de réenchantement ?
Peut-être retrouver notre place d'humain un peu plus juste au sein justement du vivant. Et ça, ce sera aussi le thème de l'intervention de Marine Simon qui sera une des conférencières autour de la cyclicité du vivant. Et réenchanter le monde de demain, c'est aussi transformer notre culture. C'est pouvoir être plus humble au quotidien, pouvoir se contenter en fait du minimum et pouvoir aussi... se réémerveiller devant la beauté du monde qui nous entoure, sortir un petit peu de nos œillères et de notre carcan de culture occidentale qui permet beaucoup moins en fait à l'humain de pouvoir être heureux aujourd'hui, je pense. Voilà, et puis retrouver du sens aussi. Réenchanter le monde de demain, c'est aussi remettre du sens à ce monde que l'on veut pour demain.
Il y a également Albert Dupontel, lequel?
Albert Dupontel, l'acteur? celui qu'on connaît tous, Albert Dupontel, qui est une figure du monde culturel, qui est vraiment engagée, qui a vraiment à cœur, voilà, qui a vraiment lui aussi une vision très très poétique de la société actuelle, et qui d'ailleurs se retrace beaucoup dans ses différents films, parce qu'il est acteur, mais il est aussi producteur. Excusez-moi. Voilà, et aujourd'hui, on pense que la présence d'Albert Dupontel peut aussi aider à faire bouger les lignes. Et je pense qu'on a tellement besoin encore plus aujourd'hui de pouvoir redonner la parole à la culture, au monde culturel, que la présence d'Albert Dupontel fait tout son sens aussi ici pour réenchanter le monde de demain. Cela ne se fera pas non plus sans la culture, il faut le savoir, voilà.
À vous entendre, depuis une quinzaine d'années, donc, les lignes n'ont guère évolué. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'une certaine notoriété, peut-être, pour être encore plus remarqué?
Alors, en fait, les Amanins n'ont pas pour vocation de devenir...
Je parle pas de célébrité, je D'accord. parle d'un savoir-faire. Ou
ah, du savoir-faire.
D'une reconnaissance, tout simplement, même.
Alors, je pense qu'on... On l'a. Après, il est vrai que les Amanins n'ont absolument pas la prétention de savoir. Nous, on part du principe qu'on est là pour expérimenter. On est un petit peu un laboratoire d'expérimentation, les Amanins. Donc on va expérimenter des choses, on va tester en fait de nouvelles manières de fonctionner, de nouvelles manières de bâtir, de nouvelles manières de consommer, de nouvelles manières de manger... d'apprendre, de coopérer ensemble. Et en fait, tous ces apprentissages, depuis 15 ans, ben oui, c'est vrai que c'est une richesse énorme que l'on a à cœur de transmettre. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre raison d'être. Pour répondre à la double question, quels enfants, quelle planète, et ben en fait, notre devoir, notre contribution, c'est de pouvoir transmettre en fait nos expérimentations, tout en restant humble dans le fait qu'on ne détient pas la vérité absolue, mais qu'en tout cas, on peut montrer qu'une autre manière de vivre est possible aujourd'hui.
Vous parlez de lieu d'expérimentation, certes. Est-ce que ce lieu d'expérimentation pourrait être répercuté à d'autres endroits? Est-ce qu'ils existent peut-être déjà? Et dans ce cas-là, est-ce que ça permettrait à chacune de ces structures de travailler différemment ou d'opérer différemment et de voir dans la durée ou dans le long terme les évolutions possibles et les bienfaits que ça apporte?
Tout à fait, il y a énormément de choses, d'initiatives, d'entreprises, de lieux qui existent aujourd'hui en France. D'ailleurs, la coopérative Oasis, qui est issue du mouvement Colibri à la base, nous dit que chaque jour en France, un à deux projets d'Oasis voient le jour, donc ce qui est énorme. Donc oui, il y a vraiment une transition qui est amorcée en France, qui est encore pas assez visible, je dirais, d'un point de vue à la fois politique et à la fois public profane sur ces questions-là. Mais il y a vraiment quelque chose qui est mis en route, et même on le voit au niveau des entreprises, du monde professionnel. On a de très belles initiatives qui ont déjà beaucoup d'années de bagage derrière elles. Je pense notamment à Pocheco dans le Nord, qui ont vraiment fait cette approche de l'économie, de l'économie circulaire, et d'avoir un impact qui soit au moins le moins polluant possible, le moins impactant possible pour l'environnement, mais qui puisse, pourquoi pas, aussi être bénéfique. Donc là, on est vraiment dans un autre état d'esprit. Et oui, plein de lieux existent, comme les Amanins. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que l'essaimage en fait de ce mode de fonctionnement puisse s'accélérer et devenir en fait une norme, enfin normale dans la tête des gens, de se dire qu'il y a un centre comme les Amanins, alors qu'ils soient pareils ou non, mais dans les valeurs en fait et dans la manière de fonctionner identique ou proche. Je pense que dans les années à venir, il faudrait, oui, que ça paraisse normal à tout le monde, quoi.
Vous parliez de politique et également, à l'heure actuelle, on peut deviner que dans le monde politique, il y a des grands bouleversements de ce qui était établi auparavant. Et on peut aussi voir poindre l'écologie qui s'affirme à chaque élection, comme celle des municipales. Est-ce qu'on peut rêver aussi pour les prochaines ?
Bah oui, moi j'imagine qu'on peut rêver. En tout cas, je crois qu'il faut continuer... Les Amanins se positionnent vraiment comme un projet militant. On est vraiment un projet militant, mais on n'est pas un projet politisé. Donc c'est vrai que nous, on défend des valeurs, on défend des projets, on défend la nature, l'environnement, le respect à la terre nourricière, le respect, plus de respect à l'humain, surtout aussi pouvoir considérer l'humain, que ce soit dans son milieu professionnel, que ce soit dans sa présence, à pouvoir faire des choses qui lui plaisent, pouvoir continuer à se former, à apprendre toujours, à être entendu, à pouvoir entendre les autres. Voilà, c'est vraiment un microcosme sur lequel on fonctionne. Et je pense que le monde politique pourrait avoir beaucoup à apprendre justement de cette pédagogie de la coopération. Ça pourrait être très intéressant. Mais là, je pense que je suis dans le rêve à 100%.
On peut parler de bon sens, en quelque sorte, de ce que vous défendez. Et est-ce qu'on peut trouver un autre mot que politique pour justement attribuer ou qualifier ce bon sens qui émane d'une population et face à des politiques qui demeurent aveugles à ce qui se prépare ?
Oui, moi je pense qu'il faut vraiment pouvoir parler de bon sens et puis aussi à un moment donné de pouvoir se reconnecter en fait... à ce qui fait sens. Et avoir du bon sens, c'est aussi se reconnecter à ce qui fait sens.
Et replacer la Terre telle qu'elle est.
Oui, puis l'humain aussi, sa place. Sa place d'humain au centre du vivant, encore une fois, dans cette cyclicité, dans cette coopération. Parce que dans la nature, tout coopère, tout le temps. Et du coup, c'est vrai que l'être humain a tout à gagner à coopérer avec la nature plutôt que de continuer à l'écraser.
On revient un peu sur ces conférences. Je voulais préciser à vous aussi, donc Ouma et Marceau Lemaître, on peut peut-être les présenter aussi.
Tout à fait. Ouma et Marceau, ce sont des anciens élèves de l'école du Colibri. Et comme je le disais, en fait, il serait impensable de réenchanter le monde de demain sans la présence d'enfants, sans leur vision de quelles sont leurs attentes pour réenchanter ce monde de demain, à quoi ressemble ce monde de demain réenchanté. Quelles sont les attentes qu'ils ont vis-à-vis de nous, les adultes aussi, pour réenchanter ce monde de demain ? Quelles sont nos responsabilités ? Quelles sont leurs responsabilités en tant que génération future ? Voilà, on ne peut pas se passer aujourd'hui de la parole des enfants pour répondre à cette question.
En parallèle de ces conférences, j'imagine qu'il y a des enfants. Est-ce qu'il y a des activités pour les occuper l'après-midi ?
Alors, pas forcément comme ça. On aura quand même 6 archi-jeux présents sur Cré qui seront à la fête. Donc, ils auront toute une panoplie de jeux à proposer. Et sinon, en dehors des conférences, il y aura des stands. On a souvent des stands avec des partenaires qui viennent présenter leur structure, leur projet. Voilà.
Repas pour le soir, pareil, les mêmes conditions. Et ensuite, les concerts à partir de 18h30 avec deux formations, hein, si j'ai bien lu. L'une qui s'intitule Zappa Mal. On peut peut-être présenter. Est-ce que ce sont des adeptes de Zappa? C'est un jeu de mots, vous ne savez pas. Et puis ensuite, le Mal des Mondes.
Le bal des Mondes, oui. Alors ça, ce sera plutôt un bal... je crois que Zappa Mal, c'est plutôt du rock acoustique ou... Ça, faudra le couper parce qu'en fait, je ne suis pas vraiment sûre.
D'accord.
Et le bal des mondes, c'est plutôt voilà, un bal dansant, musique du monde, quelque chose qui soit vraiment festif, qui permette, on l'espère vraiment, hein, que les concerts pourront se dérouler sans être assis et que les gens pourront quand même danser un peu. Peut-être que c'est un peu tôt pour pouvoir l'espérer, mais ce serait vraiment bon, je pense, que beaucoup de monde en ont besoin aujourd'hui.
Peut-être des chaises à roulettes sur un beau parquet.
Peut-être.
Eh bien, en tout cas, vous avez aussi un site internet que vous aviez déjà cité. Hein. On peut citer l'adresse précise ?
Oui, www.lesamanins.com.
Laura Grivet, je vous remercie d'être venue à Erdiwa pour nous présenter cette journée du 12 juin à la fête des Amanins pour réenchanter le monde de demain.
Merci beaucoup, au plaisir de vous y retrouver.
Au revoir.